Je suis à Lausanne, au Beau Rivage, avec la vue sur Ouchy, qui est une cité indépendante et vraiment autonome. Elle était réputée pour être la cité des pirates. Donc vous avez de la chance d'être là dans un magnifique palace. Bonjour. Oui, Eve Mimran. On vous retrouve au Ciné-Festival pour votre film avec Lucchini.
Dans un pirate.
Voilà, c'est vous qui le dites, hein. C'est vous qui assumez vos propos. Et face à lui, Laila Bekti. Alors, Lucchini interprète dans votre film un homme pressé, un homme pressé sur tous les fronts, que ce soit le travail, la vie privée, les proches. Il n'a jamais le temps pour personne, jusqu'au jour où un accident va le clouer au sol au sens propre et figuré. Il va devoir réapprendre le langage avec une orthophoniste qui le prend en charge avec beaucoup de patience, Laila Bekti, que vous retrouvez. Alors, parlez-nous de la jeunesse de ce projet, donc un homme pressé.
Alors, la jeunesse, c'est j'ai lu un article dans Le Monde, il y a 4 ans maintenant, je pense, à peu près, qui dressait le portrait d'un monsieur qui s'appelle Christian Streff, qui était PDG de PSA, qui a fait un AVC, et qui a dû cacher sa maladie pendant très longtemps, pendant quelques mois. Parce que comme c'était un homme de pouvoir, il ne pouvait pas, pour des raisons de bourse, etc., il ne pouvait pas dévoiler sa maladie. Donc, je me suis dit que c'était un début d'une histoire assez extraordinaire et très cinématographique. Et voilà, et je me suis mis à écrire une histoire assez loin, finalement, de la réalité, en fait, en tout cas de son histoire, mais... voilà, qui pour moi avait un sens, en tout cas, par rapport à cet accident, quoi.
Un accident qui est de plus en plus fréquent, qui arrive de plus en plus tôt dans notre société. D'ailleurs, il y a encore quelques jours, c'était la journée mondiale de l'AVC.
Oui, c'était vendredi, ouais.
Voilà.
Ouais.
Et c'est un exercice de style pour Fabrice Lucchini, lui qui adore s'amuser avec les mots, que ce soit au théâtre ou la littérature. C'est quelque chose qui le nourrit depuis sa tendre jeunesse.
Sa tendre jeunesse, effectivement. Bah, écoutez, oui, c'était un exercice de style, mais ce qui prouve que c'est un grand acteur, parce que même avec des mots qui ne veulent rien dire, il arrive à dire beaucoup de choses. Donc, c'est finalement, quand il s'appuie sur les mots d'habitude de ses grands auteurs, bah, il a déjà les grands auteurs derrière lui. Là, il a un auteur un peu plus petit qui lui fait dire des mots un peu dans tous les sens qui ne veulent rien dire. Donc, du coup, ça lui fait un travail et ça montre à quel point c'est un acteur extraordinaire, parce que il arrive à faire passer des choses, on arrive quand même à comprendre ce qu'il dit avec des mots qui ne vont pas du tout l'un avec les autres. C'est là où c'est le génie de l'acteur, quoi.
Il y a des moments très truculents, je pense justement avec l'orthophoniste, où je lâche juste ça, après je dirais pas plus pour laisser les spectateurs découvrir, mais au lieu de dire galope, il va dire salope. Mm-hmm. Elle reste très sobre, très... Voilà, voilà. Et vous avez joué avec ces moments-là, parce qu'il y a le drame de l'accident, mais en même temps, il y a toujours de la comédie.
Oui, toujours. Moi, je mets toujours de la comédie dans le drame. Enfin, de toute façon, la comédie n'existe pas sans le drame. Si c'est toutes les situations de comédie, à la base, c'est une situation de tragédie. C'est-à-dire quelqu'un qui va tomber de sa chaise, ça peut être très drôle et ça peut être dramatique. Mais c'est le point de départ est le même. Donc, c'est juste une question de point de vue. C'est une question de langage un peu. C'est comme une manière de s'exprimer différente. Moi, ce qui me plaît au cinéma et dans la manière dont je raconte les histoires, c'est d'essayer toujours de mettre un peu de comédie, un peu de légèreté dans ces moments un peu lourds, quoi. Et voilà.
Alors, à un moment, vous dites justement, c'est une question de point de vue, ça veut dire que vous aimez changer les points de vue dans un même récit.
Oui, parce que en fait, ce qui intéresse, ce que j'ai fait là, en tout cas, c'est on part sur une histoire de quelqu'un, on se dit tiens, ça va être l'histoire de ce monsieur. Et puis en fait, au fur et à mesure, rapidement, on dit ah non, finalement, ça va être l'histoire de deux personnes qui auraient jamais dû se rencontrer, qui vont se rencontrer, qui vont s'apprécier plus ou moins et qui vont s'apporter des choses l'un à l'autre malgré eux.
Comme le renard et le petit prince, ils vont s'apprivoiser petit à petit alors que c'était pas censé être prédestiné en tout cas.
Mais alors, qui est le renard et qui est le petit prince dans mon histoire? Vous voulez dire que Fabrice Lucchini est un renard?
Je n'ai rien dit.
Prince.
Je laisse le réalisateur scénariste parler.
Écoutez, c'est de toute façon, c'est les deux, Leïla et Fabrice, c'est deux renards et deux petits princes et une petite princesse surtout. Voilà, c'est de toute façon, les acteurs sont un peu des animaux sauvages, comme un renard, qu'il faut qu'il faut savoir approcher avec douceur, etc. Pour... Et puis après, ça devient des... Alors, je ne sais pas si le renard est quelqu'un qui se laisse aussi bien amadouer, mais en tout cas, les acteurs, oui.
Alors justement, la vraie mémoire, là, vous mentionnez indirectement la direction. Comment vous avez travaillé? Parce qu'on imagine que Lucchini aussi, il a tellement de métiers derrière lui que c'est peut-être difficile à le canaliser.
Non, pas du tout, en fait. C'est vraiment une fausse image qu'on a de lui. Mais c'est comme tous les grands acteurs. Tous les grands acteurs, en fait... Alors, je ne vous dis pas que c'est facile au départ. C'est-à-dire que avant d'accepter de rentrer dans votre univers, etc., il faut du temps. On a fait beaucoup de lectures, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup parlé, etc. Mais Fabrice est un acteur respectueux des auteurs, très respectueux des auteurs, et donc des metteurs en scène. Et que quand il a décidé de rentrer dans votre univers, ben, il vous suit complètement, quoi. C'est pas quelqu'un qui se rebelle, c'est pas... Évidemment, on discute et tout, c'est pas une marionnette, hein, mais c'est pas plus difficile que diriger des acteurs, voire c'est même plus facile parce qu'il comprend très très vite. Et il ajuste très très vite quand on lui dit des choses sur le jeu, il les ajuste immédiatement. D'abord, il est souvent très bon dès la première prise, et après, c'est que des petits ajustements, on essaye des pistes différentes, etc., quoi.
Alors, le choix des comédiens, est-ce qu'il était déjà présent au moment de l'écriture ?
Non. Alors, non, moi, j'écris... Alors, pour le personnage de Fabrice, non, parce que comme c'était un personnage déterminant dans l'histoire, imaginez, j'écris un scénario pour Fabrice Lucchini, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Je lui propose le scénario, et puis il dit non, soit ça ne me plaît pas, soit je ne suis pas libre avant 2 ans... Soit j'ai pas envie de jouer ça, etc. Vous vous retrouvez avec un scénario, avec un personnage que vous avez imaginé, avec un comédien. Et là, c'est terrible parce qu'il faut se remettre, il faut retrouver, etc. Moi, j'ai, par principe, j'ai toujours écrit les scénarios sans penser au comédien. Et une fois que j'ai terminé, je me dis qui est la bonne personne pour jouer ce rôle. Et voilà. Et quand j'ai pensé à Fabrice. Parce que forcément, ça me donnait quelqu'un qui maîtrise aussi bien le langage, de lui faire perdre le langage, c'était un contre-emploi assez intéressant. Et voilà, et bon, j'ai eu la chance qu'il accepte, qu'il veuille faire le film, etc. Par contre, je dois vous avouer que je mens un peu parce que quand j'ai écrit le personnage de Jeanne, j'ai tout de suite pensé à Leïla. Mais bon, Leïla, on a un passif voilà. Depuis, ça fait 3 films qu'on fait ensemble. On est né au cinéma ensemble quasiment, donc
il y a une connivence.
Il y a au-delà de la connivence, c'est une histoire, c'est une relation qui est presque fraternelle, quoi. Oui. C'est la sœur que c'est ma petite sœur que je n'ai pas eue, enfin que j'ai une petite sœur, mais qui n'est pas ma sœur de sang, mais on a ce rapport qui est très très fusionnel. Et en fait, lors d'une interview comme ça qu'on avait faite pour New York, elle disait. Elle disait à un journaliste, elle disait, moi, que tu lui disais, mais qu'est-ce que vous rêvez de jouer comme personnage et elle lui dit, moi, je rêve de jouer un personnage qui s'appelle Jeanne. Et voilà, donc j'ai écrit un personnage qui s'appelle Jeanne.
Pour elle.
Pour elle.
Et vous touchez à tout. Hein. Là, il y a l'écriture, la mise en scène. Ouais. J'imagine que vous êtes aussi présent intensément au montage.
Oui.
Et il y a la musique aussi dans votre vie.
Ouais.
Vous avez réalisé des clips, entre autres avec Benjamin Biolay. Mm-hmm. Est-ce que toutes les façons, les manières artistiques de s'exprimer vous nourrissent ?
Ah, complètement. Alors, moi, je c'est vrai qu'il y a un petit côté contrôle fric, mais depuis la première ligne jusqu'à la dernière image de montage, je suis présent partout. Non pas parce que c'est pas un truc de dire de contrôler tout, mais c'est que chaque étape a une importance et peut donner un sens différent au film. Effectivement, moi, je me suis nourri et je me nourris toujours de le cinéma. C'est finalement un mélange d'art. C'est un peu la conjoncture entre la peinture, bon, la musique évidemment, l'architecture,
la photographie,
la danse, enfin, vous voyez, c'est un peu tout ça parce que c'est et effectivement, moi, je me suis énormément nourri quand j'étais étudiant en cinéma, évidemment que je voyais beaucoup de films, mais ce qui m'a beaucoup nourri, bizarrement, avant le cinéma, enfin, en tout cas dans la conception de l'image, c'est les peintres et la peinture, quoi. J'ai beaucoup Je me suis beaucoup inspiré d'artistes, de peintres. J'ai beaucoup étudié le cadre et la lumière chez certains peintres. Et d'ailleurs, quand je donne des références à mes chefs opérateurs, à mes directeurs de la photographie, je leur donne jamais des films. Parce que sinon, ils vont appliquer la même recette. Mmh. Et parce qu'ils savent, ils savent techniquement. Mais moi, je leur donne toujours des peintures, des toiles, des trucs qui font que eux vont réinterpréter la lumière par rapport à ça. Et puis, c'est un exercice fantastique. Mais c'est vrai que la photo, c'était ma première passion dans la vie, dans mon premier métier que j'ai voulu faire, très jeune, vers 8-9 ans. J'avais envie de faire d'être photographe. Et c'est vrai que j'ai eu mon premier appareil photo vers 8-9 ans.
Argentique,
évidemment. Oui, je suis pas si jeune que ça. Et je faisais des photos plus ou moins intéressantes. Mais en tout cas, le cadre, la composition m'ont toujours intéressé. Et c'est après, quand j'ai découvert que finalement, la photo, le cinéma était 24 photos par seconde. Mmh. Et en plus, on pouvait raconter d'autres histoires, que là, je me suis passionné pour le cinéma, etc. etc. Et me voilà.
Donc, là, vous parliez aussi des points de vue avec le drame ou la comédie. La perspective joue un rôle très important dans votre œuvre.
La perspective en général ou la perspective dans l'image ?
Dans l'image.
Oui, oui. Alors oui, c'est marrant que vous notez ça, c'est bien, j'aime bien.
Vous voyez, on a la même génération, c'est l'argentique qui a parlé là.
Ouais, peut-être, mais, mais oui, la perspective, c'est effectivement, la perspective d'une manière générale, même d'une manière symbolique, c'est ce qui fait qu'un film existe, c'est ce qui fait que le cinéma existe, c'est l'art de la perspective. Et effectivement, je suis très sensible à ça et que quand je mets... Quand je mets dans une image une perspective ou s'il n'y a pas de perspective, en général, c'est un peu un doublon de sens de ce que je veux raconter dans cette scène aussi, quoi. C'est vrai que je suis très sensible à ça. Souvent, on me dit... Souvent, en fait, parfois, on me fait filmer contre un mur, etc. Et je dis, non, mais c'est pas possible, en fait. Ça veut dire quelque chose. Si on filme contre un mur, ça raconte pas la même chose que si on le filme devant une fenêtre avec un paysage derrière. Vous voyez, c'est le sens, le langage de l'image, quoi.
Alors, à un moment, vous avez mentionné que très jeune, vous étiez attiré par la photographie. Mmh. Mais le cinéma, quand est-ce qu'il vous a appelé ? Et comment êtes-vous tombé dans le cinéma ?
Alors, je suis tombé dans le cinéma, un peu malgré moi. C'est arrivé vers 11-12 ans, 12-13 ans, au début de l'adolescence, quoi. Quand j'ai commencé, en fait, à découvrir qu'il y avait autre chose que ce qu'on me proposait. Mmh. Donc... jusqu'à l'adolescence, enfin à cette époque-là, parce que maintenant les images vont tellement vite que c'est différent, mais en tout cas, il y avait les films qui faisaient rire les copains, qui plaisaient aux copains, etc. Enfin, qui était un truc de génération que tout le monde allait voir, etc. Comme tout le temps. Et puis un jour, moi je devais avoir 13-14 ans, où j'ai découvert un autre cinéma. Qui était la comédie américaine, Mel Brooks par exemple. C'est Mel Brooks m'a vraiment beaucoup éveillé à la comédie américaine surtout. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça parle un autre langage. On est sur un même registre, mais ça raconte autre chose d'une manière différente. Et donc, voilà, ça m'a tout de suite, je me suis senti touché, mais dans un truc qui est assez profond. Et de là, ça m'a fait découler sur toute la comédie américaine, et puis après, le vrai choc dans ma vie qui m'a donné envie de faire des films, c'était quand un jour, je suis tombé à la télévision, à l'ancienne, sur Manhattan de Woody Allen, et là, tout de suite, je me suis dit, tiens, en fait, on peut être un auteur et faire des choses drôles, on peut raconter des choses profondes d'une manière légère. On peut travailler sur des cadres et sur un noir et blanc sublime avec un très grand chef opérateur et raconter des choses très profondes d'une manière légère. Voilà, tout m'a fasciné dans ce film. Pourtant, j'avais 15 ans. Les problématiques du film, quand je le revois maintenant, je me dis, mais comment, à 15 ans, on peut être sensible à ces angoisses d'un quarantenaire new-yorkais qui est si loin de moi, qui... Mais voilà, en tout cas, ça a tilté et ça a été un vrai et c'est surtout à partir de ce moment-là...
Un stimulus.
Un stimulus, c'est surtout... En fait, jusqu'à maintenant, moi qui viens d'une famille absolument pas du tout dans le métier, dans le milieu artistique, j'étais un enfant, j'ai grandi, je suis né à Marseille, très très loin de Paris et des milieux du cinéma. Et en fait, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, tiens, on peut toucher, raconter une histoire avec sa propre histoire, avec ses propres sentiments, ses propres névroses. Enfin, je ne mettais même pas ce mot là-dessus à 14 ans. Hein, je ne sais même pas ce que c'était une névrose. Hein. Mais voilà, donc tout ça m'a dit... En tout cas, ça touchait à l'intime. Et je me suis dit, tiens, donc c'est possible, en fait, de faire des films.
Alors, je rebondis sur vos propos. Là, vous mentionnez Woody Allen, qui vous a révélé aussi au cinéma, au 7e art, l'importance du verbe chez Woody Allen. Il est très bavard, en général. Ouais. Et le langage, pour revenir à vos films, que ce soit Tout ce qui brille, où il y avait déjà le langage comme un noyau du récit, mm-hmm. le langage, la façon dont on parle, là, c'est nouveau le langage, mais l'absence de langage aussi.
Oui, alors ce qui est marrant, c'est que... Alors, je me suis pas posé la question avant, mais c'est que plusieurs personnes qui ont vu le film, qui m'ont parlé de ça, effectivement, qu'il y a un rapport entre les deux, voire entre les trois films, mm-hmm. c'est le langage. Dans Tout ce qui brille, c'est ce langage qui caractérise des gens d'une certaine classe sociale d'un certain, par rapport aux autres, par rapport aux gens de Paris, qui les stigmatise. Dans New York, c'était ces jeunes qui arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, qui pensent qu'ils vont arriver au temple des possibles et qui finalement se retrouvent confrontés à un truc, à une barrière déjà de langue, etc., qu'ils ne maîtrisent pas. Et effectivement, là, c'est quelqu'un qui est un grand orateur, qui maîtrise parfaitement la langue, qui perd son langage, et qui en plus, en réapprenant à parler et avec les fautes qu'il peut faire, va le faire s'insérer finalement dans une autre catégorie socio-professionnelle, enfin sociale plutôt, qui va le faire accéder qui va pouvoir communiquer avec d'autres gens alors qu'avant il ne pouvait pas. Voilà. Mais alors, tout ça, c'est évidemment, ce n'était pas conscient. Je m'en suis aperçu maintenant à force de qu'on me le dise parce que je ne m'en ai pas aperçu tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a tout ça, c'est un point commun. Un truc sur le langage. Pourtant, j'ai jamais eu de problème de langage. En tout cas, enfant, je parlais peu. J'étais assez autiste, mais
observateur.
Observateur. Bah oui, forcément, faut bien, sinon on s'ennuie. Déjà qu'on s'ennuie quand on parle pas.
Alors, on doit vous quitter malheureusement, et vraiment, vous êtes dans le cadre du Festival Ciné Festival à Lausanne avec votre ouais. film Un homme pressé. Ouais. Votre rapport avec la Suisse et éventuellement le cinéma suisse.
Alors, moi, le rapport avec la Suisse, il est très très fort parce qu'en fait, j'ai passé. Bon, déjà, il y a deux inventions qui n'ont pas passé vos frontières, et ça, je comprends pas pourquoi. Mais c'est le fondant et la double crème. Donc, je c'est ne bon, comprends hein. pas pourquoi on n'en trouve pas en France. Le fondant, on en trouve un peu. Mais il faut vraiment aller les chercher chez les bons cavistes. Et la double crème, alors c'est carrément...
Avec les meringues. Que c'est.
Avec des meringues, de la glace vanille, parfait, magnifique.
Et quelques baies des bois.
Quelques
baies des bois, vous savez, les myrtilles.
Ah oui, baies des bois, oui, j'ai oui, pas compris. Ah oui, oui, oui. Allez. Donc ça déjà...
Vous parlez à une experte. Hein.
Je vois. Donc déjà, ben, on est deux, on est bien. Donc déjà, ça c'est ma passion dans la vie. Et en fait, dans mon adolescence, enfin, j'ai passé... tous mes étés, quasiment tous mes hivers, en colonie vacances, au Diableret, Villars-sur-Ollon, etc., dans le canton, dans le Vaudois, enfin dans le même
Chablais, ouais.
Et voilà, donc toute ma vie d'adolescent, mes grands moments de ma vie sont très attachés à la Suisse, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'étais un peu un enfant un peu à part, et que les colonies vacances étaient pour moi une espèce de bouffée d'air frais où je Et donc voilà, donc j'ai des grands, grands souvenirs. Tout mon éveil artistique, sentimental, voire plus, c'est passé dans
les paysages, montagnes. Justement.
Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime autant les montagnes et que je les montre aussi bien dans le film.
Donc Hervé Mimeron, vous êtes en pèlerinage. Bon pèlerinage en Suisse, merci. Merci et bon festival.
Merci.